Il est en congolais avec un aïrung à la présentation.
Bonsoir, lancement le week-end dernier de l'entité de liaison des droits de l'homme, une structure nationale qui s'occupera désormais des questions liées aux droits humains en RDC. Comment cette structure va-t-elle fonctionner? Pour répondre à ces questions, nos invités dans ce débat sont Maître Ruffin Louco, porte-parole du ministre de la Justice, il est avec nous dans ce studio. Bonsoir Maître.
Bonsoir Aléa.
Floribert Chebea, président national de la Voix des Sans Voix, une ONG de défense des droits humains, également avec nous dans ce studio. Bonsoir M. Chebea.
Bonsoir.
Félicien Kabamba, analyste politique et chercheur au Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa, lui est en ligne. Bonsoir M. Kabamba.
Bonsoir.
Vous, chers auditeurs, vous êtes très nombreux à réagir. Maître Max de Matadi au Bas-Congo dit « La mise sur pied de ce cadre est une façon de trouver solutions nombreuses critiques actuelles des ONG internationales de droits de l'homme contre le gouvernement de la RDC. » Patrick Kianza de Fatek en Ituri, en province orientale, lui dit « Cette initiative est bonne mais n'aura pas une longue vie et finira par disparaître. Pour moi, la meilleure solution serait de renforcer la magistrature qui a un mandat traditionnel de sauvegarde des droits de l'homme. » Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Entité de liaison des droits de l'homme, c'est la structure qui devra s'occuper désormais de toutes les questions liées à la situation des droits humains en RDC. Ce nouveau cadre de concertation entre le pouvoir et les organisations de droits de l'homme a été lancé officiellement samedi dernier à Kinshasa par le ministre de la Justice. Sa mission et son fonctionnement concourent à la promotion et à la protection des droits humains en RDC. Des détails avec Jeff Ngoy.
Piloté par le Premier ministre, avec comme adjoint le ministre des Droits humains, l'entité de liaison des droits de l'homme a été créée par décret du chef du gouvernement congolais en août 2009. Elle est chargée notamment d'évaluer les activités nationales dans le domaine des droits de l'homme, suggérer des orientations utiles, examiner les problèmes à la base des violations des droits de l'homme et en proposer des solutions. L'entité comprend trois organes, à savoir le comité de pilotage, celui des experts et le secrétariat technique. Son comité est composé de plusieurs délégués des institutions politiques et militaires du pays, des ONG et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce cadre de concertation bénéficie d'un budget de fonctionnement émergent au budget de l'État. Selon le ministre de la Justice et Droits humains, dans un avenir proche, cette entité de liaison va s'étendre au niveau provincial et local. En attendant, une rencontre est prévue chaque quinzaine avec les ONG des droits de l'homme pour dresser le monitoring.
Maître Ruffin Louco, je rappelle que vous êtes porte-parole du ministre de la Justice et Droits humains. Quelle est l'opportunité de créer cette structure maintenant?
Ah non, c'est d'ailleurs même presque à retard, parce que vous ne pouvez pas réaliser. C'est comme dernièrement, on a créé et on a réglementé les tapages nocturnes. Si l'on peut parler des tapages diurnes que fait les ONG, et l'image négative que cela a réjailli sur la République à l'extérieur, le préjudice est énorme. Donc, le bruit, entre guillemets, ou les rapports que font les ONG sur un caractère lamentable de la situation des droits de l'homme au pays a détruit presque totalement l'image. Ce qui fait que tous nos officiels, chaque fois qu'ils voient l'étranger, le premier défi qu'ils doivent d'abord résoudre, c'est le défi de l'image du pays. Il était donc plus qu'urgent, donc, il ne fallait même pas attendre l'avènement du gouvernement Mobutu. Le président de la République a déjà annoncé ça depuis longtemps. Il fallait commencer à cette démarche cavalière des rapports négatifs systématiquement sur la RDC et qu'on puisse mettre une entité de liaison qui va permettre et au gouvernement et aux ONG, ça veut dire aux institutions publiques et aux ONG, de parler le même langage. Donc, vous avez suivi dernièrement, vous me demandez quelle est la nécessité, la problématique de la crise actuelle. Hier, le rapport du Guinon, par exemple, à Lubumbashi, un million de morts, à Kilwa, autant, à Tessie, autant.
Et lorsque l'on vérifie, on se demande où étaient les gouvernements, où étaient les institutions, des rapports sur rapports, comme si les gouvernements n'existaient pas, comme si l'armée n'existait pas, la police n'existait pas, comme le service de streaming n'existait pas. Donc, désormais, une entité, un cadre de concertation, de collaboration, en fait que les choses se passent conjointement, collégialement, pour que nous puissions tous nous battre, en fait de ramener l'image des pays à un portrait acceptable, qui va permettre à tous les enfants de la République, tous ceux qui parlent en la République, de parler et qui soient respectés.
Alors, cette entité de liaison, cette structure, nous l'avons suivie hein, dans le reportage de Jeff Ngoy, c'est un peu un fourre-tout, hein, les organisations, les ONG, les politiques, les policiers, les militaires. Pourquoi avoir pris cette orientation de mettre tout le monde ensemble? Est-ce que ça ne pourrait pas porter préjudice à la liberté des ONG?
Non, d'abord, pas du tout. Considérer que c'est une stratégie logique, que ça soit contre la corruption. Personne ne vaincra au Congo la corruption seule. Que ça soit les violations massives des droits de l'homme. État devenu parmi les mots qui dorongent la République. Les policiers partis, l'armée là-bas, les populations civiles là-bas, des hommes en uniforme de l'autre côté. Il faut donc une structure qui regroupe tout le monde. Il faut que tout le monde se regroupe. Ça veut dire, il faut qu'il y ait une base qui contienne tout le monde. Que tout le monde contribue. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus des cris que non, moi on m'a isolé, moi on m'a exclu. Non. Que nous tous, nous, le pays est vaste. Le pays est vaste avec une population plurielle. Il faut absolument que toutes les sensibilités de la République puissent se retrouver dans ce combat, n'est-ce pas, de respecter pour la promotion des droits de l'homme dans notre pays.
Floribert Chebeya, vous êtes président national de la Voix des Sans Voix, une ONG de défense des droits humains. Comment vous avez reçu le lancement de cette entité, de cette structure, l'entité de liaison des droits de l'homme?
D'abord être positif. Les ONG des droits humains de la République démocratique du Congo ont salué l'initiative gouvernementale de créer ce cadre de concertation et de collaboration qui, en fait, traduit un vœu qui a été exprimé à maintes reprises par les ONG des droits humains qui ont toujours demandé au gouvernement d'être ouvert et d'être perméable à la collaboration. Donc, d'abord, nous saluons, n'est-ce pas, cette initiative, mais nous constatons en même temps que les gouvernements qui ont la responsabilité d'assurer la mise en œuvre des droits humains en République démocratique du Congo, est toujours miné par de préjugés. Des préjugés à tort selon lesquels les ONG, pas seulement étrangères ou nationales, mais les ONG nationales, sont plus perçues à tort comme une caisse de résonance de l'opposition politique ou des agents au service des puissances étrangères.
C'est comme être, vous pouvez appeler tapage d'urne, hein, entre guillemets.
Non, absolument, nous ne partageons pas cela. Parce qu'il s'agit de regarder la situation en face. Les ONG n'ont pas tiré de flèches sur les gouvernements. Les ONG ne font pas des attaques sur les gouvernements. Les ONG ne font pas de tapage ou de bruit dur ou nocturne contre les gouvernements. Les ONG des droits humains, dans leur mission traditionnelle, en fait, complètent ou appuient les gouvernements dans la réalisation, n'est-ce pas, de ces missions, notamment par rapport à ces engagements nationaux et internationaux des droits humains. Les ONG ne font que par leur technicité et leur professionnalisme de monitoring sur la situation des droits de l'homme en constatant des violations des droits humains. Et tous les rapports qui ont été sortis, aussi bien par les ONG nationales que les ONG internationales, traduisent en fait sur le terrain la réalité. Et par rapport au gouvernement, qui pointe du doigt les ONG nationales, qui récuse les rapports des ONG internationales. En tout cas, nous avons pris très nettement une position en disant que nous soutenons. Les ONG de la République démocratique du Congo soutiennent totalement tous les rapports qui ont été produits au niveau international.
Alors ça, c'est au niveau de rapports. Revenons plutôt à cette entité de liaison des droits de l'homme. Dans une interview à Radio Capi, vous avez déclaré que les ONG ont été prises à pied levé. Avez-vous été consulté?
Il y a des difficultés. Je dois d'abord dire que l'entité de liaison, ce n'est pas une nouvelle réalité en République démocratique du Congo. L'entité de liaison des droits humains a existé depuis plusieurs années, mais fonctionnait différemment sur base d'initiatives du ministre des droits humains par été ministériel et avec la collaboration des ONG, le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la division droits de l'homme de la MONU et quelques services de sécurité du ministère, etc. Et au niveau du réseau national des ONG droits de l'homme, le RENADOC, nous avons en fait fait partie de deux plateformes qui étaient sélectionnées et qui siégeaient, n'est-ce pas, aux travaux de l'entité de liaison. Alors, au moment où les gouvernements de la République démocratique du Congo étaient en train, n'est-ce pas, d'insister pour supprimer un mécanisme important de surveillance des Nations Unies sur la situation des droits humains, donc a milité pour la suppression du mandat de l'expert indépendant. Et à la place, à Genève, pendant la session, le gouvernement a dit on n'a plus besoin d'un expert indépendant. La commission des droits de l'homme a été muée en conseil des droits de l'homme avec toutes les réformes que cela entraîne et on n'a plus besoin d'être victime de discrimination, etc. Et on a dit qu'au niveau interne, il y a une entité de liaison des droits de l'homme qui existe, mais en réalité, à cette période-là, l'entité de liaison ne fonctionnait plus.
Alors pour cette entité, vous avez été consulté, oui ou non?
Je pense qu'il y a un défaut en amont. Aujourd'hui, on nous a présenté un décret du Premier ministre. Mais je constate malheureusement qu'en amont, les ONG, en tout cas la concertation, n'a pas fonctionné. Voilà. Et c'est là, en fait, en genre de difficulté que nous voyons dans ces décrets sur l'efficacité, l'indépendance, et les résultats qu'on devait atteindre, n'est-ce pas, de cette entité de liaison.
Voilà. Félicien Kabamba, vous êtes analyste politique et chercheur au Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Quelle est votre analyse, à vous, par rapport au lancement de cette structure, l'entité de liaison des droits de l'homme?
Disons que c'est une très bonne initiative, étant donné que l'État congolais est un État fragile, et vous savez que la notion de l'État fragile est une notion qui a été abondamment développée par les Nations Unies, et c'est donc les Nations Unies se sont employées à définir cette notion, disons, la notion d'État fragile comme un État caractérisé par un manque d'engagement politique et où une faible capacité à développer ou à mettre en œuvre des politiques de lutte contre les violations des droits de l'homme et de lutte contre la pauvreté. Et donc, dans cette définition, vous pouvez voir qu'il y a deux notions. La notion du manque d'engagement, c'est-à-dire, on peut dire que c'est des États qui ne veulent pas, et de l'autre côté, des États qui ne peuvent pas. Et donc, à partir du moment où on met une structure, on peut supposer qu'en fait, il y a un degré d'engagement politique. Il y a là, donc, un encouragement à faire, à apporter, par rapport aux initiatives que l'État met en place pour lutter contre les violations massives des droits de l'homme. Même si, de l'autre côté, on sait que l'État a développé une très faible capacité de lutter contre les différentes violations des droits de l'homme. Et donc, non seulement l'État n'a pas les capacités nécessaires pour lutter contre les droits de l'homme, et là je vois par exemple toutes les violations des droits de l'homme à l'est du pays, qui sont aussi bien perpétrées par nos propres hommes que les rebelles, et l'État n'a pas développé les capacités nécessaires pour lutter contre ce type de violations des droits de l'homme. Mais aussi, et c'est ce que l'on a constaté depuis longtemps, l'État ne voulait pas, il y avait un faible engagement politique en faveur de la lutte contre donc les violations des droits de l'homme. Et donc, avec la mise en place d'une telle structure, je crois qu'il y a là un début d'engagement politique perceptible, même si il faudra évidemment voir le résultat pour ne pas être trop optimiste maintenant.
Mais vous avez suivi Floribert Chebeya qui émettait déjà des craintes quant à un certain équilibre des ONG dans cette entité, la crainte d'une part d'être muselée. Qu'est-ce que vous en dites?
Disons que ce n'est pas la première fois qu'il y a des telles structures. Si vous regardez en face de nous, il y a déjà l'IPIER. L'IPIER qui est une structure dans laquelle vous trouvez la société civile, vous trouvez les entreprises qui exploitent, et puis vous avez l'État. Et donc, déjà, ça peut vous donner l'image d'une structure multipartite dans laquelle les différentes parties prenantes composent. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, l'IPIER rencontre beaucoup de problèmes, des problèmes qui sont aussi bien liés, disons, au design structurel, au mandat de chacun, à l'imprécision des fonctions de chacune des parties. Et donc aujourd'hui, l'IPIER rencontre trop de problèmes. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, parce que si au départ, il y a un faible engagement, ou il y a une de nuages, donc de zones d'ombre qui planent au niveau de la mise en place de la structure, il faut déjà dire qu'on est mal parti. Mais si la structure peut être mise en place de manière consensuelle, si elle peut être mise en place à partir d'un certain nombre de réunions préparatoires dans lesquelles toutes les parties sont parties prenantes, moi je crois que là on peut déjà prédire une réussite. Mais si au départ il y a une partie des acteurs qui sont exclus, là, il faut dire qu'on est mal parti.
Maître Ruffin Louko, il y a cet auditeur, Rémi Kababala de Gand en Belgique, qui dit « Quel rapport entretiendra cette instance avec les cours et tribunaux ? Je pense que le ministre de la Justice et Droits Humains doit se souvenir qu'il n'appartient pas à l'État de créer de telles instances parce qu'elles doivent être indépendantes du gouvernement. » Il y a César Ndaora de Bouillant, province orientale. Je pense que cette structure de liaison de droits de l'homme est un paradoxe car l'exécutif y sera jugé parti. Bernard Andeka de Guémena à l'Équateur, cette entité de liaison des droits de l'homme ne va-t-elle pas affaiblir la promotion et la protection des droits de l'homme dans notre pays, Maître Ruffin Louko?
D'abord, cet auditeur a pleinement raison, parce qu'il rejoint là ce que le ministre de la Justice avait déjà posé en disant que la meilleure réponse de lutte contre les violences, contre les violations des droits de l'homme, c'est la justice. Et celle-ci, la justice, a été éloignée depuis longtemps de la lutte contre les violations des droits de l'homme. Il faut réhabiliter la justice dans ces combats. Et parce que les consommateurs ultimes des violations des droits de l'homme, parce que partout où on mentionne, on décrit les violations des droits de l'homme, si la justice pouvait prendre en charge immédiatement la violation, eh bien, les esprits se calmeraient aussitôt. C'est parce que des dizaines d'années durant, la justice ne répondait pas aux violations. Eh bien, ça perdurait donc dans cette situation. Donc, par rapport à la composition, qui va résoudre le problème des violations? Ce n'est pas le gouvernement, c'est la justice. Parce que lorsqu'il y a violation, il y a donc un frein à la loi, à la réglementation, aux libertés individuelles, aux droits fondamentaux. Lorsqu'il y a violation, on est donc à marge de ce qui est autorisé. Vous êtes à marge, vous avez déjà violé. Et là, vous devez être pris en charge par celui qui est chargé de réprimer les violations. Ça se multiplie dans notre pays parce qu'il n'y a pas eu, et nous l'avons déjà dit plusieurs fois, le gouvernement a insisté là-dessus, si vous voyez comment il se déploie actuellement, et actuellement le ministre de la Justice est à Lubumbashi dans le cadre de le recrutement des magistrats, dans la formation qu'il va avoir, notamment par la conscientisation du respect des droits de l'homme, de la répression des violations, c'est parce que si le gouvernement se mobilise ainsi, c'est parce que le gouvernement a considéré que la justice d'abord est partout.
Oui, la justice d'abord est partout, mais il y a beaucoup de textes, hein, il y a beaucoup d'évolutions au niveau des textes de loi qui ont été votés au Parlement pour renforcer le respect des droits de l'homme, mais la grande difficulté, c'est toujours au niveau de l'application.
L'application parce que des lois, mais il n'y a pas de formation. Loi sans formation. Il faut former les gens. Ça commence déjà. Il y a donc une séance de 3 mois où on va former les gens. Il faut former les gens, nos policiers et nos militaires, qui pour la plupart sont les plus cités dans l'évaluation des droits de l'homme. Il faut les former au respect de l'autre. Il y a une mutation. Le gouvernement l'a déjà annoncé. La mutation. Pour la magistrature, mutation. Pour la police, mutation. Pour l'armée également, mutation. Que ce soit une armée républicaine, une police républicaine, une police des citoyens, une justice citoyenne. Donc,
s'il n'y a pas de formation, considérez que la chose, lorsque nous parlons de formation, c'est fondamental. Beaucoup déjà appliquent le droit de l'homme sans connaître ce qu'est le droit de l'homme.
La formation, ça veut tout dire et rien à la fois. Concrètement, ça va se passer comment?
Ça veut dire rappeler aux gens les grandes limitations. Quels sont les droits fondamentaux des gens? Qu'est-ce que la police doit faire vis-à-vis, n'est-ce pas, de la population? Qu'est-ce que le magistrat doit faire particulièrement par exemple vis-à-vis des violations, des violences sexuelles? Quel est le comportement du ministère public? Quel est le comportement de l'armée en cas de guerre? Quel est le comportement de l'armée en cas de paix? Ces formations-là, il n'y en a pas eu assez. Donc, il faut d'abord former le magistrat, former les activistes des droits de l'homme, et ce genre de formation, de concertation, va se passer notamment dans cette entité de liaison qui réunit tout le monde. Donc, la présence des ministres et de tous les organes de la République chargés d'accuser des violences ou chargés du respect des violations et du respect, n'est-ce pas, des droits des gens, eh bien, pour que tous parlent le même langage et se concertent pour les solutions durables.
Floribert Chebeya, vous émettez beaucoup de craintes hein, en ce qui concerne l'indépendance de cette structure. Pourquoi?
Bon, à la lecture du décret, hein, je crois que cela saute aux yeux. Hein, la composition, des pas de la composition, la mission dévolue à cette entité de liaison, ça saute pratiquement aux yeux. Et le texte, le décret semble être fermé, comme nous l'avons dit, il y a eu défaut de concertation en amont. Mais ce défaut de concertation, en fait, est également aggravé par une réalité dure sur le terrain contre les défenseurs des droits humains. Vous vous rappelez, en 2009-2010, les défenseurs des droits humains ont dit très clairement, au niveau national et international, qui faisait l'objet de ciblage par les autorités du gouvernement de la République démocratique du Congo.Ors, il ne s'agit pas simplement d'une question de formation, parce que qui viole les droits humains en République démocratique du Congo? Il n'y a pas que les policiers, il n'y a pas que les militaires. Il y a des violations politiques qui sont commandées, des violations des droits de l'homme qui sont commandées au sommet de l'État, en tout cas au niveau politique. Et justement, le problème qui se pose ici, c'est un problème réellement de manque de volonté politique. Je vois très mal comment on peut arriver à régler ce problème de manque de volonté politique, de mise en œuvre des droits humains, par, n'est-ce pas, une simple formation. Alors là, ça renvoie aux responsabilités du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et au niveau national et international, vous savez, il y a ce qu'on appelle les engagements nationaux et internationaux en matière des droits humains. Alors, je pense, pour ne pas faire des droits humains un simple slogan, simple, juste la poudre aux yeux, destinée à la communauté internationale, je pense qu'on devait, les gouvernements devaient faire un effort pour rencontrer les vraies questions qui sont posées au quotidien par les ONG de la République démocratique du Congo.
Et quelles devraient être, par exemple, les priorités de cette entité?
Les priorités de cette entité, d'abord, les gouvernements devraient se préoccuper de savoir justement qu'est-ce que proposent les différents acteurs et actrices impliqués dans la situation des droits humains en République démocratique du Congo. Ça n'a pas été fait. Alors, on se retrouve, en tout cas, nous les acteurs et actrices, devant un fait accompli, il y a un décret qui est là, mais qui semble être fermé.
Vous avez aussi déclaré, hein, toujours à Radio Okapi, qu'il y aurait des pièges à éviter dans cette structure. Quels sont ces pièges?
Oui, justement, nous avons dit que le texte était fermé et qu'il fallait, pour nous, il est important, parce qu'on ne va pas créer une structure, c'est une structure gouvernementale. L'initiative est venue, n'est-ce pas, des gouvernements. C'est vrai, nous, les ONG, nous avons toujours appelé à la concertation, à la collaboration, mais nous n'avons jamais été écoutés. Et au moment où on dit, bon, il y a des rapports, etc., qui pointent du doigt la République démocratique, il faut nécessairement faire quelque chose. Alors, nous avons tenu tout d'abord à réaffirmer le principe d'indépendance des ONG. Et si nous voulons, si les efforts sont faits pour que les ONG collaborent à cette entité de liaison, je pense qu'il faudrait également régler. Nous en avons appelé à une large représentativité des ONG. Et aussi, nous avons demandé à ce qu'on accélère la mise sur pied de la Commission nationale des droits humains. qui est prévu en fait par la Constitution de la République démocratique du Congo. On veut faire plaisir, le gouvernement semble être pris à son propre piège, parce que pour supprimer le mécanisme international de surveillance de la situation des droits humains, on a dit nous avons une solution, c'est l'entité de liaison. Et l'entité de liaison, on vient de la réveiller seulement maintenant.
Okay. Allez-y, terminez votre
question. Oui, entre-temps, les violations continuent.
Voilà, Félicien Kabamba, il y a Christian Mbunza de Butembo Nord-Kivu qui dit « Je pense que la mise sur pied de cette entité de liaison des droits de l'homme ne profitera pas au peuple congolais. C'est encore un mécanisme pour essayer de flouer la communauté internationale qui est très vigilante en matière de droits humains. »
Non, je crois que ce serait très précipité de dire ça, parce qu'à partir du moment où une structure est mise en place, on juge la structure par ses résultats. Et donc, du coup, on ne peut pas directement préjuger que les résultats auxquels la structure va parvenir sont déjà des résultats négatifs. Il faudra peut-être lui donner un peu plus de chance, voir dans quelle mesure cette structure peut travailler et comment elle peut déboucher sur des résultats satisfaisants. Et par rapport à la question qui est évoquée par nos amis des ONG, je crois qu'il y a là deux alternatives. La première, c'est que la structure ayant été constituée, est-ce que vous allez rester en dehors de la structure, ou bien vous dites que nous y entrons, et donc notre lutte, nous allons l'amener au niveau de à l'intérieur de la structure. Et à partir de là, il y a un large débat qui sera ouvert, et donc il y a lieu de repenser et d'influencer les choses dans les sens souhaités par les ONG. Une deuxième façon de faire les choses, c'est de dire, bon, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont les choses ont été faites, et donc, nous n'y entrons pas. Ce qui serait, à mon avis, une alternative dangereuse, parce que là, c'est carrément une politique de chaise vide. Alors, je crois qu'il y a là nécessité d'entrer au niveau de à l'intérieur de la structure, et de voir comment marquer de son empreinte la dynamique au niveau interne, donc de la structure. Ce serait peut-être l'unique manière. Il est vrai qu'au départ, il est toujours difficile de se mettre d'accord sur tout au niveau de la conception de la structure, au niveau de l'articulation des fonctions et des rôles au niveau de la structure, mais une fois dedans, il y a peut-être moyen de faire changer les choses dans le sens que vous souhaitez.
Blaise Osongo de Kamanga, au Kasai Occidental, dit cette structure de concertation ne sera pas à la hauteur des attentes que si elle était indépendante du gouvernement, Félicien Kabamba.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que l'indépendance par rapport au gouvernement, il faudra voir, comme je venais de le dire, l'articulation des rôles et des fonctions au niveau de la structure. Qui fait quoi? Qui est chargé de quoi? Qui a le pouvoir par rapport à quoi? Et donc, toutes ces questions doivent être résolues pour qu'on sache si, dans la marche de la structure, elle pourra être vraiment indépendante du pouvoir en place. Parce que si elle n'est pas indépendante, je ne crois pas qu'il y a là un travail de qualité qui pourrait être abattu, tant il est vrai qu'une grande partie des violations des droits de l'homme vient évidemment de l'État. Donc l'acteur, l'un des acteurs violateurs des droits de l'homme, c'est l'État. Et donc là, si l'État, qui est en même temps l'un des violateurs des droits de l'homme, s'approprie la structure, je vois qu'il sera à la fois jugé parti.
Maître Ruffin Louko, l'État sera jugé parti, l'initiative vient du gouvernement, mais comment garantir aux ONG leur indépendance dans le fonctionnement de cette structure?
Je dois d'abord préciser que les ONG vont demeurer indépendantes, pour celles notamment qui ont déjà la personnalité juridique, leur indépendance est absolument inintamable. Deux, il ne s'agit pas pour le gouvernement d'un parti unique regroupant les ONG. Non, pas du tout. Au contraire, il s'agit là d'une réponse à une demande constante. Il n'y a pas de concertation. C'est ce qu'on reproche au gouvernement d'État. Le gouvernement, il n'y a pas de concertation. C'est les gens qui parlent. Depuis tout le temps, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de collaboration. Il n'y a pas. Ils sont fermés les autorités, le ministère de la Défense, le CECI, la primature, la présidence, rien du tout. Et lorsque vous voyez dans l'organisation qui met en place ou ensemble ceux qui revendiquent et ceux qui sont reprochés d'être les violateurs, il y a tout le monde. Le ministre de la Défense, on dit que non, on ne le voit pas. Il est la membre. Le premier ministre, on ne le voit pas. Il est la membre. La présidente de la République, représentée. Le ministère des Affaires étrangères, dedans. Le ministère de l'Intérieur, les commandants suprêmes, l'auditeur général.
Alors, comment ça va se passer concrètement? C'est-à-dire, il y aura, par exemple, un rapport unique sur les droits de l'homme en RDC, ficelé par toutes les composantes. Comment ça va se passer dans le fonctionnement concrètement?
Les ONG sont toujours libres en ce qui concerne le travail qu'ils font. C'est qu'au niveau national, il y a une entité de liaison. C'est ainsi qu'on l'appelle, entité de liaison. C'est entre notamment les ONG et les institutions. C'est ainsi que vous voyez donc cette composition collégiale. Au départ, les institutions, et à la fin, les ONG. Donc, ça va se passer comment? Ça va se passer que tout ce que nous aurons comme rapport négatif, c'est comme ça qu'on l'appelle les ouvres, ça veut dire les violations répertoriées à tel quoi, à tel autre, seront canalisées par un organe. C'est-à-dire, les ONG feront ce qu'il faut toujours. Parce que qu'est-ce que ça donne comme impression? C'est comme le disait à l'époque, si on peut paraphraser Jésus, qu'au tas de la fille, il y aura des moments difficiles. Et dans ce moment difficile, l'usage des monocres est là d'argent. Le chef de l'État aurait eu raison également de dire qu'après les élections démocratiques, il y aura des moments difficiles en RDC. Et quiconque alimentera ou utilisera l'image négative du pays aura de l'argent. Donc, c'est comme si dans cet ensemble, il y a l'argent.
Voilà.
Et si les gens ne veulent pas se regrouper, c'est parce qu'on dirait que chacun a une casserole où il y a de l'argent, il exploite. Nous voulons donc que nous tous, dans ces combats-là, je vois l'homme, que les gens ne puissent pas gagner en aparté, que nous gagnions tous ensemble pour une seule image de la République rayonnante et de tout le monde est fier.
Voilà, votre image a fait sourire Floribert Chebeya. Mais très brièvement, Maître Louko, y a-t-il déjà un agenda qui fixe des priorités à court terme, à moyen terme?
Évidemment, le ministre de la Justice qui est ici, le ministre qui est en charge des droits humains, eh bien, a déjà promis que chaque quinzaine, il y aura une réunion avec les ONG des droits de l'homme. Donc, d'ici qu'il est arrivé de Lubumbashi, il va venir, n'est-ce pas, parce qu'il a déjà installé cette entité parmi, n'est-ce pas, les agences que le ministère de la Justice a estimées essentielles, c'est d'abord concertation. Il ne veut pas annoncer pompeusement des programmes sans avoir concerté. Pourquoi? Il y a une installation, et ça je vais terminer tellement pour passer le mot ici à ça, il y a une installation de l'entité. Floribert, on a encore nommé personne. On ne veut donc nommer personne tant qu'il n'y a pas concertation. Donc, première raison, concertation.
Voilà, Floribert Chebeya, il y a Augustin Mwango de Kindo Maniema qui dit « Je pense que la situation des droits de l'homme en RDC ne peut s'améliorer que si les gouvernants font preuve de volonté politique. Le problème se pose toujours lorsque les grandes personnalités politiques sont impliquées dans les violations des droits de l'homme. » Votre réaction?
Oui, nous partageons cette analyse qui traduit en fait la situation que nous vivons malheureusement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous-mêmes nous sommes revenus à plusieurs reprises sur la persistance de manque de volonté politique des mises en œuvre des droits humains en République démocratique du Congo.
Mais vous avez suivi Félicien Kabamba, c'est déjà un début que l'organisation de cette structure.
Bon, je pense qu'il faut, on ne peut pas construire une maison sans fondation, ou on construit une maison avec une mauvaise fondation. Alors, je viens de dire que le décret, en fait, qui est l'acte fondateur de cette entité, n'est-ce pas, de liaison des droits de l'homme, le décret semble être fermé.
Oui, ça vous l'avez déjà dit, oui. Mais Félicien Kabamba a dit, quelle est l'option que vous prenez? Vous prenez l'option de rester hors, en dehors de la structure, ou de lutter, d'intégrer la structure et de lutter dedans?
Non, nous restons positifs. Nous l'avons dit, les ONG des droits humains ont salué l'initiative gouvernementale de mettre sur pied cette entité de liaison des droits humains, en fait, qui répond aux préoccupations des ONG, de longue date. Nous avons pris l'option d'entrer là-dedans, de voir l'étendue, la qualité, n'est-ce pas, d'échange, de dialogue, l'ouverture, n'est-ce pas, du gouvernement par rapport, n'est-ce pas, à l'indépendance des ONG qui doit absolument être sauvegardée. Et là, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, nous allons en tirer, n'est-ce pas, toutes les conséquences. Et pour rester positif, nous pensons que nous allons faire des propositions positive, constructive, et nous espérons que le gouvernement pourra en tenir compte pour que cette entité de liaison des droits humains soit enfin une chance pour faire évoluer positivement la situation des droits humains en République démocratique du Congo.
Félicien Kabamba, il y a Raymond Kasangala de Kinshasa qui dit « La création de ce cadre de concertation est une bonne chose si elle met le peuple congolais et ses besoins au centre de tout. Nous craignons que ce ne soit une façon de dissiper les flagrantes violations de droits humains sous prétexte de respecter les clauses de cette structure. »
Oui, disons que ce sont des craintes plus légitimes parce que de temps en temps, le gouvernement a tendance à mettre en place des programmes, des structures, juste pour plaire, pour, si vous voulez, répondre aux attentes de la communauté internationale. Et rarement, aux attentes de la communauté nationale. Et donc, du coup, il y a là une crainte qui est exprimée de l'intérieur, parce qu'à partir du moment où les programmes qui sont mis en place, les institutions, les structures qu'on met en place, sont dirigées vers les attentes de l'extérieur, et non de l'intérieur, naturellement, on ne répondra pas au problème, ou si vous voulez, on ne va pas trouver de solution au problème intérieur, mais là, on répond aux attentes extérieures. Il y a là un problème de relation entre l'État et la société, l'État et les citoyens. Est-ce que les citoyens ont encore confiance à cet État? C'est là toute l'étendue de la question. Et moi, je crois que les inquiétudes qui sont soulevées par les concitoyens sont des plaintes légitimes, parce que les concitoyens vivent au quotidien les violations des droits de l'homme. Et comme je venais de le dire, on a constaté au quotidien un très faible engagement, sinon l'absence de l'engagement politique de l'État face à la question de la lutte contre les violations massives des droits de l'homme.
Alors, si vous venez de prendre cette émission en cours, sachez que Dialogue entre Congolais parle du lancement le week-end dernier de l'entité de liaison des droits de l'homme, une structure nationale qui s'occupera désormais des questions liées aux droits humains en RDC. La question principale, c'est comment cette structure va fonctionner. Nos invités dans cette émission sont Maître Ruslan Louko, porte-parole du ministre de la Justice, Floribert Chebea, président national de la Voix des Sans-Voix, une ONG de défense des droits humains, Félicien Kabamba, analyste politique et chercheur au Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Maître Ruslan Louko, le Fonds des Nations Unies pour la Population, l'UNFPA, signale qu'en 2009, il y a environ 15 000 nouveaux cas de violences sexuelles qui ont été enregistrés en RDC. À quoi devrons-nous nous attendre avec le lancement de cette structure? À une diminution très sensible des cas de violation de droits de l'homme, ou ça va rester encore des paroles entre guillemets en l'air, comme le craignent beaucoup d'auditeurs?
S'agissant de ces cas spécifiquement, ce n'est pas l'entité qui va y répondre. C'est la justice qui va y répondre. Et le ministère de la Justice et le gouvernement vous ont annoncé que dans les 1000 magistrats qui sont nommés maintenant, il y a 500 femmes, il y a 500 dames. Qu'est-ce que le gouvernement vise à nier en favorisant davantage ou bien en mettant une prépondérance sur les dames pour qu'elles, en tant que magistrats, en tant que chargées du respect de nos lois, puissent donner une réponse particulière aux violations massives des libertés individuelles en ce qui concerne la liberté sexuelle, les violences sexuelles. Donc, ce n'est pas l'entité qui va répondre. Ça, c'est un cas récurrent qui ronge toute nos populations. Et ces violences sexuelles, hélas, comme vous le savez, nous avons fait des recherches là-dessus, ne sont plus des violences, comme on dit, des violences de guerre. Maintenant, c'est toute une ville, ça devient une calamité interrégionale.
Malheureusement, il y a l'impunité qui va à son plein aussi.
Non, c'est-à-dire, lorsqu'on dit l'impunité, ce sont des cas qui n'arrivent pas devant les juges.
Vous croyez?
Oui, absolument, parce que nous avons des statistiques. Les cas qui arrivent devant les juges, sur 100 cas, 90 sont réprimés. Donc, ces cas-là auront des réponses, évidemment, par les renforcements de la justice. C'est pourquoi nous ne nous voulons pas, dont le gouvernement ne veut pas être évasif. Il veut qu'au moment où il crée une entité, qu'il dise à la nation, nous ne travaillons pas nécessairement pour la communauté internationale, nous travaillons d'abord pour nos populations, qu'il dise à la nation que la réponse fidèle, efficace et robuste contre les violations des droits de l'homme, en particulier les violences sexuelles, ce n'est pas les rapports, c'est la justice. Donc, chaque fois qu'il y a violation, c'est pourquoi on veut que les magistrats soient partout
il y a violation, vous n'arrivez pas à une ONG pour crier, vous allez directement à la justice, à la police, au parquet, au tribunal, et vous avez la réponse.
Je vous demande une brève réponse, il y a votre confrère, Maître Juvenal Monobo de Goma en Nord-Kivu, qui dit « Que faire pour que cette nouvelle structure soit plus performante que l'Observatoire national des droits humains connu durant la transition? La collaboration entre dirigeants et acteurs de la société civile ne risque-t-elle pas d'être complaisante en son sein ?»
Tout à fait, c'est mon frère Juvenal Monobo de Goma. Je réponds très rapidement en disant que la chose essentielle, et que Frédéric Floribert a dit, c'est qu'ils puissent participer massivement dans la première heure de concertation pour que tous leurs problèmes soient entendus au départ, en préalable, et que vous puissiez bouger, bousculer pour que votre budget qui est déjà consacré par un décret du Premier ministre, parce que maintenant, là, il y aura un budget. Jusque-là, vous n'aviez pas de budget. Maintenant, il y a un acte réglementaire qui consacre que désormais, cette entité dans laquelle se trouvent toutes les ONG, eh bien, ne boycottez pas, s'il vous plaît, cette entité.
Merci.
Venez et vous permettrez que cette entité puisse fonctionner avec vous dedans. Que cette machine puisse démarrer, vous êtes des commandants de bord ou de passage.
Merci. Floribert Chebé, à quoi devrons-nous nous attendre quant à l'amélioration des droits humains en RDC?
Bon, les ONG ont fait des propositions. À la dernière session, la 13e session du Conseil des droits humains à Genève, les ONG nationales et internationales ont craint en fait qu'il puisse y avoir des recommandations sur recommandations concernant le gouvernement de la République démocratique du Congo qui brille par le manque de volonté politique. C'est ce que nous avons insisté. C'est fondamental. Il n'y a rien de négatif à ce sujet qu'on puisse remettre en place un mécanisme de surveillance onusien en termes de rapporteur spécial ou de l'expert indépendant, justement chargé de donner, d'aider le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui apparemment, manifestement, est extraverti, tout le monde vient de le dire, et par rapport à cette entité de liaison, il y a un défaut d'appropriation. Nous espérons que ce défaut d'appropriation pourra être corrigé.
Donc vous doutez encore sur les résultats de cette entité?
Oui, parce que ça serait quand même naïf de croire, alors que présentement, il n'y a qu'en face de nous de violations massives des droits humains. Ah, ça serait irresponsable de notre part, et ça ne serait pas objectif. Nous avons besoin d'être rassurés par le gouvernement de la République démocratique du Congo qui doit arriver à respecter ses engagements nationaux et internationaux en matière de droits humains. On n'y est pas encore.
Merci Floribert Chebea, nous considérons ça aussi comme votre conclusion. Félicien Kabamba, l'émission tend à sa fin, votre conclusion également.
Oui, moi je veux demander à la société civile de continuer son combat, un combat qui vise la lutte contre les violations des droits de l'homme. Et au gouvernement, en tout cas, je prie le gouvernement de faire son travail, c'est-à-dire de gérer l'État. Parce qu'on a comme l'impression que l'État n'est pas géré. Et donc, à partir du moment où l'État ne sait pas assurer la sécurité des populations, où l'État ne sait pas garantir à la population une vie paisible, en tout cas, on peut considérer que l'État a failli à sa mission. Il faut que le gouvernement gère l'État.
Merci Félicien. Maître Louko, votre conclusion.
D'abord, l'État. C'est vrai, l'impression que ça donne à nos populations, c'est que c'est un pays, un État qui vient d'une guerre. Elle a été lamentablement presque renversée. L'État est géré, sauf que nous ne répondons pas à toutes les préoccupations de la population. Nous voulons que dans cette entité, toutes les ONG viennent avec leurs contributions, parce qu'il était son primobile à ce qui concerne la revendication, qu'ils puissent la faire avec en face de directement les autres, les dirigeants et les gouvernants, et puis nous que se retrouver tous des réponses à ce qui concerne les violations des droits de l'homme, qu'il n'y ait plus de rapports qui nous bousculent, alors que nous sommes là pour nous concerter et trouver des solutions ensemble.
Merci à Maître Rochin Louko, porte-parole du ministre de la Justice. Merci à vous, Floribert Chebea, président de la Voix des Sans-Voix. Merci à Félicien Kabamba, analyste politique et chercheur au Centre d'études politiques à l'Université de Kinshasa. Fin de cette émission. Samuel Tchatchak, Kevin Kouté et notre stagiaire Aimé Kamoua vous ont préparé cette émission sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la mise en onde Willem Lungamba. Et merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis devant ce micro. Alain Irung, Mouchige, bonne suite au programme sur Radio Capi. Okapi, okapi.